VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 6 mars 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Le Pentagone dénonce la perversion du groupe État islamique après la publication d'une vidéo sur l'embuscade d'octobre dernier près de Tongo Tongo au Niger.
En République démocratique du Congo, une dizaine de mouvements ont appelé à une grève générale pour ce vendredi.
En Angola, Isabel dos Santos, fille de l'ex-président angolais, dément avoir détourné des fonds de la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale.
En Syrie, un convoi humanitaire entré lundi dans la partie rebelle de la Ghouta orientale a dû abréger ses livraisons d'aide.
Ici à Washington, le président Donald Trump reste ferme sur sa décision d'imposer des taxes douanières sur les importations d'acier et d'aluminium.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le Pentagone a réagi hier à une vidéo diffusée par le groupe État islamique montrant les soldats américains tués dans une embuscade au Niger. Pour le Pentagone, cela démontre la perversion du groupe djihadiste. Le point avec Bagassi Koura.
Le ministère américain de la Défense est informé de la publication de photos et d'une vidéo de propagande sur l'attaque terroriste du 4 octobre au Niger. C'est ce qu'a indiqué le Pentagone dans un communiqué, ajoutant que cette publication montre la perversion de l'ennemi que nous combattons. Cette compilation d'images dure 9 minutes et circule sur les réseaux sociaux depuis le 4 février. La vidéo montre des soldats américains sous le feu des assaillants et les corps ensanglantés d'au moins 2 Américains. L'un des soldats est d'ailleurs achevé sous l'œil de la caméra. Le 4 octobre, une cinquantaine de combattants djihadistes équipés d'armes automatiques, de grenades et de mitraillettes avaient tendu une embuscade à un convoi de 12 soldats américains et 30 soldats nigériens près du village de Tongo Tongo au Niger. 4 soldats américains et au moins 5 militaires nigériens ont été tués. L'attaque a été revendiquée par Abu Walid al-Sahraoui, l'émir du groupe État islamique au Sahel.
Au Nigeria, un attentat suicide perpétré par une personne à bicyclette portant une ceinture d'explosifs a fait 3 morts et 18 blessés hier soir dans la banlieue de la ville septentrionale de Maïdougouri. Il n'y a aucun doute que cette attaque porte la signature des terroristes de Boko Haram, a déclaré un responsable de la milice civile locale qui aide les forces armées à combattre le groupe djihadiste.
En République démocratique du Congo, une dizaine de mouvements ont appelé à une grève générale pour ce vendredi. Ils entendent protester contre la mort de militants dans ce qu'ils appellent la répression criminelle des marches anti-Kabila. Abdourahmane Dia.
Pour Gloria Senka, militante du mouvement Lutte pour le changement, une des organisations à l'origine de l'appel, cette journée ville morte vendredi sera en mémoire des manifestants tués. Il s'agit d'honorer les mémoires des héros tombés sur le champ de bataille en livrant l'ultime combat de leur vie, celui de la justice, de la liberté et de la démocratie, a-t-elle dit. Le 25 février, 2 personnes ont été tuées par balle en marge des marches organisées par le Comité laïque de coordination CLC. Les autorités parlent de bavure et annoncent que leurs auteurs ont été arrêtés. L'un des policiers a été condamné à la prison à perpétuité à l'issue d'un procès express. La marche du 25 février était la 3e d'une série organisée à l'appel du collectif d'intellectuels proches de l'Église catholique. Ces manifestations ont déjà fait 17 morts d'après l'Église catholique et la mission des Nations Unies en RD Congo.
Isabel dos Santos, fille de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos, a démenti hier tout détournement de fonds lorsqu'elle dirigeait la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale. Elle a estimé que ces accusations étaient totalement sans fondement. Le point avec Morgan Guériec.
Je ne peux que faire part de mon indignation totale devant ces accusations et insinuations graves, a affirmé hier Isabel dos Santos dans un communiqué de presse. Le 28 février, Carlos Saturnino, le nouveau PDG de la Sonangol, avait dénoncé sa mauvaise gestion, citant notamment un transfert de 38 millions de dollars à une entreprise basée à Dubaï. Isabel dos Santos rejette catégoriquement toutes ces allégations, accusant même son successeur d'être un menteur, en brandissant la menace de poursuites judiciaires pour diffamation. La justice angolaise, elle, a annoncé l'ouverture d'une enquête. En novembre, celle qui est considérée par le magazine Forbes comme la femme la plus riche du continent a été limogée par João Lourenço, le nouveau président angolais. Il a succédé à José Eduardo dos Santos, qui avait régné sans partage pendant 38 ans à la tête de l'Angola. Depuis son arrivée au pouvoir, M. Lourenço a congédié de nombreux barons de l'ancien régime.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, un convoi d'aide humanitaire entré lundi dans la partie rebelle de la Ghouta orientale a dû abréger ses livraisons, et ce en raison des bombardements du régime syrien qui ont coûté la vie hier à au moins 73 civils. Après plus de deux semaines de pilonnage d'une rare intensité ayant tué plus de 760 civils, Damas a reconquis 40% de ce fief rebelle situé aux portes de Damas et assiégé depuis 2013, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
A signalé aussi que le directeur de cette ONG a dit à l'AFP que 18 cas de suffocation et de difficultés respiratoires ont été recensés à Amourié après le lancement d'une roquette par un avion militaire syrien sur cette localité de la Ghouta orientale. Des activistes opposés au régime syrien ont évoqué le recours par Damas à des gaz toxiques, ce que les médias étatiques syriens ont qualifié de pièce de théâtre du chimique.
Ici, aux États-Unis, le président Donald Trump a affirmé lundi qu'il pourrait assister à l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem en mai, assurant que les relations entre les États-Unis et Israël n'avaient jamais été aussi bonnes. Les précisions de John Lyndon.
Si je peux, j'irai, a affirmé Donald Trump, interrogé en présence du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur un éventuel déplacement à Jérusalem pour l'ouverture de l'ambassade américaine. Ce transfert est prévu le 14 mai pour coïncider avec le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. « Je suis fier de cette décision », a-t-il ajouté depuis le bureau ovale, évoquant son choix en dépit de multiples mises en garde, de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État hébreu et d'y transférer l'ambassade des États-Unis actuellement à Tel Aviv. Interrogé sur le processus de paix israélo-palestinien, le locataire de la Maison-Blanche est resté évasif sur le calendrier des présentations de la proposition américaine, mais a réaffirmé sa conviction que la paix était possible, même s'il s'agit de l'accord le plus difficile qui soit. « Nous y travaillons très dur. Je pense que nous avons une très bonne chance », a-t-il affirmé. Assis à ses côtés, M. Netanyahou a une nouvelle fois loué la décision de M. Trump sur Jérusalem et souligné combien, à ses yeux, la principale menace pesant sur le Proche-Orient était celle de l'Iran.
À Séoul, les responsables sud-coréens ont dit que le leader nord-coréen Kim Jong-un a souhaité la bienvenue aux principaux collaborateurs du président Moon Jae-in hier à Pyongyang lors d'un dîner officiel. Cette visite entre dans le cadre des derniers efforts diplomatiques qui, espèrent certains, pourraient ouvrir la voie à des pourparlers directs entre les États-Unis et la Corée du Nord. Interrogé à ce sujet, Katina Adams, porte-parole du département d'État américain, a dit que Washington était en contact étroit avec Séoul au sujet d'une réponse commune à Pyongyang qui inclut la nécessité de maintenir une pression maximale pour parvenir à une péninsule coréenne dénucléarisée.
Le président Donald Trump a précisé hier qu'il restait ferme sur sa décision d'imposer des taxes douanières de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium. Il a cependant laissé entendre que le Canada et le Mexique pourraient être exemptés si un nouvel ALENA, accord sur le libre-échange nord-américain, qu'il veut juste, était conclu avec ces deux pays. Les trois pays membres terminent à Mexico leur dernier round sur la révision de l'ALENA. À noter que la décision de M. Trump sur l'acier et l'aluminium a été vivement condamnée par certains membres de son propre parti républicain, ainsi que par des partenaires commerciaux des États-Unis à travers le monde. Pour certains analystes, les taxes envisagées vont causer du tort à nombre de ses alliés. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, Blanche Sanou.
Au Nigeria, la Société nationale du pétrole a indiqué une allocation mensuelle de 24 milliards de naira, soit environ 7 860 millions de dollars, pour subventionner le carburant. Selon la Nigeria National Petroleum Corporation, cette situation est due à la prolifération des stations-service à travers le pays. Ce développement de ces stations laisse place à une contrebande qui rendait difficile l'assainissement du réseau d'approvisionnement et de distribution du carburant dans le pays. Le phosphate, l'un des secteurs stratégiques pour l'économie tunisienne, est entravé par des troubles sociaux récurrents. Le gouvernement a annoncé qu'il poursuivrait les responsables du blocage de sa production après l'échec d'une nouvelle tentative de négociation. La production du phosphate est repartie à la hausse en 2017 à 4,1 millions de tonnes, mais une paralysie prolongée met en péril son objectif de 6,5 millions de tonnes pour 2018, un chiffre important pour atteindre l'objectif de croissance du PIB. Bangui, la capitale de la Centrafrique, dispose désormais d'une représentation au port autonome de Douala. Ce pays utilise le port de Douala pour plus de 80% de ses exportations et importations. Selon la Direction générale des douanes, près de 55 milliards de francs CFA de marchandises transitent chaque année par le port de Douala. Les autorités portuaires camerounaises expliquent cette nouveauté par leur détermination à reconquérir et fidéliser ses clients.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Jour J en Europe pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions.
Et oui, le Paris Saint-Germain qui vise une remontada face au Real Madrid, vainqueur 3-1 à l'aller. Le Paris Saint-Germain rêve de refaire le coup de 93 lorsqu'il avait surmonté un revers identique à l'aller en s'imposant 4-1 en retour au Parc des Princes. Il y avait à l'époque un certain Georges Weah sur la pelouse. Les Parisiens qui ne pourront pas compter sur leur meilleur joueur, Neymar, opéré, vous le saviez, du pied droit, est vraisemblablement remplacé par Angel Di Maria sur le terrain. Angel Di Maria, l'Argentin, c'est l'homme fort de ce début 2018 pour les Parisiens. En face, bien évidemment, Zinedine Zidane et les Madrilènes, tenants du titre, compteront sur Ronaldo. Dans l'autre match, ce mardi soir, Liverpool a la qualification presque en poche en accueillant Porto, qu'ils avaient battu 5-0. On se souvient bien évidemment du triplé du Sénégalais Sadio Mané.
Sur le continent africain, les 16e de finale aller de la Ligue des Champions.
Et oui, le club tanzanien des Young Africans qui accueille le Tanshim Brawlers du Botswana, le MFM FC du Nigeria face au MC Alger, l'Étoile du Sahel, le club du Tunisie face au plateau du Nigeria, et puis le Oroya de Guinée qui accueille le club sénégalais de Génération Foot. Enfin, ça va être dur, le déplacement au Caire pour le CF Mounana, les Gabonais qui affrontent Al Ahly.
En Coupe CAF aussi, les premiers matchs.
Le club congolais de La Mancha face à Al Ahly Chandi du Soudan, le Daring Club Motema Pembe à Kinshasa face au Deportivo Niefang, et puis le Petro Atlético, le club angolais, face à Supersport d'Afrique du Sud, le Belouizdad d'Algérie contre le Nkana de Zambie, Berkane du Maroc face au club africain de Tunisie, et puis le FC Nouadhibou, le club de Mauritanie, face au Raja Casablanca.
En Italie, c'est toujours l'émotion.
Davide Astori, l'international italien et capitaine de la Fiorentina, est décédé, vous le savez, dans la nuit de samedi à dimanche, dans une chambre d'hôtel à Udine, où son équipe aurait dû jouer dimanche un match de la 27e journée de Serie A. Eh bien, l'autopsie aura lieu ce mardi et les funérailles du joueur se dérouleront jeudi à Florence. C'est ce qu'annonce le club italien. Allez, Idrissa, avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Cleveland et Détroit, 112-90. Indiana et Milwaukee 92-89, Miami et Phoenix 125-103, Boston et Chicago 105-89, San Antonio et Memphis 100-98, Utah et Orlando 94-80.
Salut les amis, ici Roger Montou de RM Show sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme de la bonne musique, comme d'hab, comme d'habitude. La question de la semaine, à avoir un ou plusieurs amants. Aïe, ça va chauffer. Cette semaine dans RM Show, envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp. Mon numéro n'a pas du tout changé, c'est au 001 703 350 3731. Contactez-moi aussi sur ma page Facebook Roger Montou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous en live, en direct. Participez, surtout en nous écrivant, nous envoyant vos commentaires. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel. C'est sur VOA Afrique. Peace Africa.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidounia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson entame à partir d'aujourd'hui une tournée africaine qui va le conduire au Tchad, à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya et au Nigeria. Il s'agit de la première visite du chef de la diplomatie américaine sur le continent. Pour en parler, Abdourahmane Dia a joint à Johannesburg, où il se trouve actuellement, l'un des porte-parole du département d'État, Brian Nubet.
Le secrétaire Tillerson, comme vous savez, a invité 37 délégations africaines à Washington novembre passé. Et donc, il a commencé une série de consultations avec ses homologues africains. Et cette visite est la suite de ces discussions.
Le secrétaire Tillerson se rendra au Tchad, à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya et au Nigeria. Est-ce qu'il y a une raison derrière le choix de ces pays?
Oui, bien sûr. Tout d'abord, je voudrais souligner que ce n'est que la première visite en Afrique. Donc, ces 6 pays sont très importants, mais nous savons bien qu'il y en a des autres. Donc, il y aura encore une visite en Afrique, on imagine, pendant l'année. Mais bien sûr, ces pays sont parmi les plus grands, qui ont une économie, une puissance dans la région très importante. Et bien sûr, Addis Ababa, s'agit pas uniquement de réunions importantes avec les autorités éthiopiennes, mais aussi il faut consulter avec l'Union africaine.
L'étape tchadienne sera certainement très importante également, puisque le Tchad est sur la liste des pays dont les citoyens sont interdits de voyager aux États-Unis. Est-ce que c'est une question qui sera abordée?
Probablement oui, nous n'avons pas tous les détails des sujets, des thèmes qui soient discutés, mais j'ajouterai que nous travaillons bien avec le gouvernement de Tchad. Nous avons un partenariat dans le domaine de sécurité, mais aussi dans d'autres domaines. Nous pensons que le Tchad va faire ce qui est nécessaire pour être enlevé de cette liste la plus vite possible.
Et la question de la démocratie et des droits de l'homme, puisque certains ici aux États-Unis semblent dire que l'administration ne s'intéresse pas trop aux questions de démocratie et de droits de l'homme. Que répondez-vous à cela?
Les États-Unis en Afrique, nous avons 3 priorités. Tout d'abord, la démocratie. Puis, deuxième, développement économique. Et troisième, en général, la sécurité et stabilité. Ces 3 éléments, ils vont ensemble. Et le secrétaire Tillerson, il va discuter tous les 3 dans ses réunions officielles. Il va souligner que c'est dans leur intérêt pour la stabilité et pour le développement de l'économie de chercher des moyens de choisir la piste vers une plus bonne gouvernance.
Brian Nubet, porte-parole du département d'État.
Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, effectue sa première visite en Afrique avec pour escale le Tchad, Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya et le Nigeria. L'occasion de faire le point sur la politique africaine de l'administration Trump. Lutte contre le terrorisme, promotion de la paix, sécurité, bonne gouvernance, commerce, investissement. Quels sont les intérêts des États-Unis en Afrique? Le nouveau locataire de la Maison-Blanche va-t-il continuer la politique mise en place par ses prédécesseurs? L'isolationnisme prôné par la Maison-Blanche pourrait-il nuire aux relations entre les États-Unis et l'Afrique? On en discute dans Washington Forum. Morgan Guiriec avec vous. Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique.
La double attaque de vendredi dernier contre le quartier général de l'état-major des armées burkinabées et l'ambassade de France au Burkina a été revendiquée par le soi-disant groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. C'est une coalition de 4 entités djihadistes du Sahel liées à Al-Qaïda. D'aucuns affirment qu'il est dirigé par le Touareg malien Iyad Aghali, chef d'Ansar Dine. Qu'en est-il? Eh bien, Yacouba Ouedraogo a joint Yehi Tandema, journaliste à Tombouctou.
C'est un groupe qui est installé dans le Sahel. Il s'agit d'ACMI, il s'agit du FLN, le mouvement pour la libération du Massina. Il s'agit aussi du groupe En Sardine. C'est des groupes qui ont fait fusion et pour un objectif commun. Si vous voyez déjà le décor qui s'installe pour le G5 Sahel, c'est une façon de contrer l'ensemble de ces groupes qui se font entendre au niveau de ces frontières des pays du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina, la Mauritanie et le Mali.
Que revendique ce groupe-là?
Depuis 2012, ils n'ont jamais caché leur intention. Il s'agit de l'application de la charia d'abord dans le nord du Mali. Comme j'ai fait une interview avec un de leurs porte-parole qui m'a fait comprendre que après 50 années d'indépendance jusque-là, les populations ne parviennent pas à trouver le bonheur. Alors seule la charia peut apporter le bonheur.
D'aucuns disent que ce groupe est dirigé par Iyad Agali. Est-ce qu'on en a la certitude?
On en a la certitude parce que c'est à travers une déclaration commune que les groupes ont accepté se faire diriger par Iyad Agali. Mais là où on n'a pas la certitude, c'est par rapport à ces attaques qui se passent où aujourd'hui nous n'avons aucune preuve de dire que c'est Iyad Agali qui est le cerveau quand même de ces attaques au niveau du Burkina, du Niger, mais au Mali, c'est possible. La dernière attaque au Burkina Faso, nous n'avons aucune preuve, ni les Occidentaux, ni moi-même, pour dire que Iyad Agali est l'auteur de quand même de ces attaques. Quand le groupe a revendiqué, nous savons qu'il y a le cerveau quand même de ce groupe, et moralement, il est impliqué.
Iyad Agali était connu pour sa défense et sa volonté de faire appliquer la charia. Quand est-ce qu'il a basculé dans l'extrémisme violent jusqu'à faire poser des bombes?
Je n'ai pas souvenance d'une période où il s'est basculé. Iyad, que j'ai rencontré à Tombouctou, était un homme lucide qui a rencontré la notabilité, les religieux, pour leur expliquer tout simplement sa démarche. Et jusque-là, faites un petit trottoir au niveau des communautés, les gens vous diront que nous avons la chance que le groupe est dirigé par Iyad parce que là, les populations ne sont pas visées. C'est seulement les forces armées de sécurité qui sont visées. Effectivement, nous n'avons pas d'attentats au niveau des mosquées ni dans les marchés, comme avec Boko Haram et autres groupes.
Là, on dirait qu'il est dans sa logique, puisque l'attaque de Ouagadougou a été celle de l'état-major général des armées et aussi de l'ambassade de France.
Voilà, ce qui me dit que jusqu'à preuve de contraire, c'est seulement les forces armées qui sont visées. Et dans toutes les revendications, ils font des mises en garde aux civils qui s'associent à ces gens.
Pourquoi les forces armées?
Pour eux, si la charia n'est pas appliquée, c'est parce qu'il y a des forces qui sont là, qui sont en train de les contrer pour l'application de leur politique.
C'était notre confrère Yehi Tandema, joint à Tombouctou.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, plusieurs détenus de différentes maisons d'arrêt du pays, dont les dossiers ont été confiés à des juges d'instruction, passent plusieurs années sans être situés sur leur sort. Le dernier cas est celui du directeur de la compagnie Air Inter One, Mathias Sarsi, arrêté et détenu depuis septembre 2017. Son conseil parle d'une détention politique. De N'Djamena, notre correspondant André Kodmadjingar fait le point.
Inculpé le 30 septembre 2017 pour financement du terrorisme, blanchiment d'argent, faux et usage de faux, Mathias Sarsi, directeur de la compagnie Air Inter One de droit commun et quatre autres personnes croupissent à la maison d'arrêt de N'Djamena. Le dossier souffre dans le tiroir du juge d'instruction. Pour Maître Olivier Guara, l'un des avocats du directeur de la compagnie Air Inter One, l'accusation s'appuie sur un document qui n'existe pas.
On a prétendu qu'il y avait des faux documents qui ont permis à un avion de type Airbus 300-312 qui survolerait des espaces prohibés. Mais nous n'avons pas vu ce document. Et en droit, quand on nous dit qu'il y a faux, on suppose qu'il y a soit altération de la vérité, soit falsification. J'estime, pour ma part, que c'est un procès politique.
Tout en exigeant la libération de son client, Maître Olivier Guara demande au gouvernement tchadien d'ouvrir une enquête sérieuse sur ce dossier.
Cet avion a eu une immatriculation. Donc, le gouvernement tchadien peut écrire à l'autorité compétente qui est l'OACI et demander tout simplement de tracer cet avion et de fournir tous les documents qui lui permettent de voler. S'il y a eu des documents faux, ça veut dire qu'il faudra rechercher l'origine de ces documents qui sont faux. S'il n'y en a pas, qu'on libère les gens, qu'ils aillent vaquer simplement à leurs occupations. On a l'impression tout simplement qu'on ne recherche pas la vérité.
Comme Mathias Sarsi, directeur de la compagnie Air Inter One, d'autres personnalités sont aussi victimes de cette lenteur judiciaire. Il s'agit du général Mohamed Abdelkader Oumar, alias Babalade, ex-préfet de la Grande Sido au sud du Tchad, inculpé pour association de malfaiteurs et incendie volontaire, est détenu depuis janvier 2015 à la maison d'arrêt de haute sécurité de Korotour au nord du pays, sans procès. Le blogueur Moyadine Mohamed Babouri, arrêté le 30 septembre 2016 en N'Djamena, pour ses critiques acerbes sur les réseaux sociaux contre le régime au pouvoir dont il fait partie de la lien familial, est toujours en séjour prolongé à la maison d'arrêt de Mossoro. Le ministre de la Justice, Jimmy Arabi, est conscient de cette lenteur judiciaire.
Certains juges d'instruction qui ont été nommés ces derniers temps n'ont pas les compétences requises. Nous sommes en train de faire un réaménagement de tous les cabinets d'instruction pour nommer des magistrats compétents qui peuvent faire diligence pour qu'un dossier d'instruction ne puisse pas aller au-delà d'une année. J'ai dû très rapidement, depuis 2 semaines, envoyer une mission judiciaire au Rotoro et à Moussoro. Ils sont partis finaliser en fait les dossiers des personnes que vous venez de citer et on espère que très prochainement ces dossiers vont connaître un aboutissement.
André Godma Dingar Ndjamena, VO Afrique.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En République centrafricaine, 2 groupes armés se disent satisfaits de leurs engagements en faveur de la paix et de la cessation des hostilités. Les Anti-Balaka et les 3R ont passé en revue leur accord de non-agression signé en décembre dernier dans le nord-ouest du pays. De Bangui, la capitale centrafricaine, compte rendu de notre correspondant Freeman Sipila.
Après plusieurs mois d'affrontements meurtriers entre 3R et Anti-Balaka dans le nord-ouest de la République centrafricaine, les 2 groupes armés signent le 15 décembre 2017 un pacte de non-agression. L'accord prévoit la cessation des hostilités, la libre circulation des personnes et de leurs biens et le respect de l'autorité de l'État. Près de 3 mois aujourd'hui, l'heure est au bilan. Dimanche 4 mars, les 2 mouvements armés ont passé en revue leurs engagements dans la ville de Bouar. Général Sio, numéro 2 du mouvement 3R.
C'est vrai, après l'accord du 15 décembre 2017, il y a eu beaucoup de changements parce que c'est un accord de non-agression et de libre circulation. Non-agression entre le groupe 3R et les Anti-Balaka. Depuis lors, il n'y a jamais eu d'agression. Et la libre circulation a repris et beaucoup de personnes sont retournées dans leurs anciennes résidences.
Dans le rang des Anti-Balaka, c'est également la satisfaction, même si quelques dérapages restent à corriger côté 3R selon les responsables. Les 2 groupes armés se sont mis d'accord pour mener une vaste sensibilisation dans toute la région du Nord-Ouest en faveur de la paix et la cohésion sociale. Général Sylvain Adamoundali, coordonnateur des Anti-Balaka de la Nana Mombéré. Depuis la signature de cet accord le 15 décembre 2017, j'ai remarqué beaucoup de signaux positifs. La seule chose que je déplore, c'est que certains éléments de 3R se promènent encore avec des armes. Pour moi, si nous acceptons de nous faire la paix, personne ne doit plus se promener avec les armes, les couteaux ou la tenue militaire. C'est le petit dérapage que j'ai noté. De leur côté, ils m'ont rassuré qu'ils tiendront compte de cela. Nous avons convenu de mener ensemble une vaste sensibilisation auprès de la population de la Nana Mombéré en faveur de la paix, pour leur dire que nous ne sommes plus des ennemis et que la guerre est terminée. L'évaluation s'est déroulée en présence des autorités préfectorales et de la MINUSCA, la mission de l'ONU. Le prophète de la Nana Mombéré, Alexis Nagizangba, note une nette amélioration de la situation sociale et sécuritaire dans sa préfecture.
Depuis l'accord de 15 décembre jusqu'à aujourd'hui, il y a un progrès considérable. Il y a la libre circulation et les violations des droits de l'homme complètement réduites parce que les parties prenantes essaient de tout faire pour faire respecter cela. Et voilà, aujourd'hui encore, ce qui m'a marqué, les 2 groupes ont fait une déclaration conjointe à la presse. Et encore, ils disent, ils vont organiser des missions de sensibilisation conjointe. Ça veut dire Anti-Balaka et 3R dans un même véhicule pour aller sensibiliser la population. Les 2 groupes qui étaient hier des ennemis sont devenus des amis, même que des frères, pour œuvrer pour la paix dans la Nana Mombéré.
Pour garantir la paix, les 2 groupes armés demandent au gouvernement d'accélérer le processus de désarmement et de restauration de l'autorité de l'État dans la région. Freeman Sipila, Bangui, VO Afrique.
Bonjour, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous dire de ne pas manquer Le Monde au féminin à 19h05, temps universel, ce mardi 6 mars, juste après les nouvelles, pour une édition spéciale à l'occasion du Mois de la Femme, avec des interviews et reportages de nos correspondants sur le continent africain. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, sur VOA Afrique. À très bientôt.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.